Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est ce soir que sera proclamé le lauréat du prix du Guesclin 2012, récompensant un livre d'histoire au ton original. Et Franck Ferrand a sauté sur l'occasion pour nous parler aujourd'hui sur Europe 1 de ce personnage un peu oublié de la saga nationale, Bertrand du Guesclin. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'autre soir, je me trouvais à Poitiers, dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Et en levant les yeux, je vois au plafond une de ces grandes scènes allégoriques, comme les aimaient les artistes du 19e siècle. Vous savez, avec toute une foule de Poitevins en costume médiéval qui acclamaient leur libérateur en lui tressant des colliers de fleurs. Je me suis demandé un instant qui pouvait bien être ce chevalier accueilli comme le Messie. Et puis, forcément, des souvenirs scolaires me sont remontés à la mémoire et je me suis dit, mais c'est du Guesclin, bien sûr.
Et on peut dire que pour cette émission, Franck, vous n'avez pas reculé devant... Devant pas grand-chose, vous n'avez reculé devant rien même. Vous aimez et vous avez invité Monsieur du Guesclin en personne.
Et oui, en tout cas un Monsieur du Guesclin qui nous parlera de son ancêtre. Lui, nous avons fort à faire auprès du jeune public, car une petite enquête rapide dans les bureaux d'Europe 1 m'a fait comprendre que parmi les moins de 30 ans, rares sont ceux qui ont entendu parler de du Guesclin, si connu autrefois de tous les ateliers, de tous les écoliers. Encore un effet sans doute des coupes claires dans les programmes d'histoire à l'école.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans l'oreillette, on supprime l'alcool avant l'antenne, mais je promets aux auditeurs que je suis sobre, simplement. Oui. C'est vrai, je me prends un peu les pieds dans le tapis ce matin. C'est comme
moi
ça.
Aussi, c'est comme ça.
Alors à propos de Bertrand du Guesclin, l'incontournable Michelet a cru pouvoir écrire, c'est dans le tome 3 de son Histoire de France, la vie de ce fameux chef de compagnie a été chantée, c'est-à-dire gâtée et obscurcie dans une sorte d'épopée chevaleresque que l'on composa probablement pour ranimer l'esprit militaire de la noblesse, à moins que ce ne fût pour amuser la royale folie de Charles VI. Il faut croire que le sujet était propre à exciter les plus nobles passions, car dès la fin de l'Ancien Régime, du Guesclin était devenu un héros national, les différentes monarchies post-révolutionnaires n'en ont pas usé autrement, et quand la République s'installe à la fin du XIXe siècle, qui met-elle en avant? Qui offre-t-elle en modèle à des générations d'écoliers en blouse grise? Bertrand du Guesclin. Incontestablement, le Breton providentiel a été la vedette de toutes sortes de récits d'histoire destinés à forger une mythologie nationale. On le retrouve mis en avant aussi bien chez Lavis ou Malet et Isaac que chez le malicieux Jean Duché, auteur d'une histoire de France racontée à Juliette. Tiens, ça me fait penser qu'il faudra qu'on parle de ça un de ces jours.
Eh bien, je note.
Le regretté Pierre Miquel, dans la fameuse histoire de la France qu'il a fait paraître en 1970, écrivait encore « Charles V eut surtout la chance d'avoir un capitaine de valeur ». Le connétable Bertrand du Guesclin, ancien chef de bande qui s'était fait remarquer dans une série de coups de main heureux contre l'occupant anglais. Sur ordre du roi, du Guesclin attaqua Charles le Mauvais en Normandie. Il le poursuivit de château en château avant de le battre définitivement à Cocherelle en 1364. Le roi de Navarre, par le traité d'Avignon, renonçait alors à ses possessions normandes. Alors, bien sûr, Pierre Miquel explique toute la saga de du Guesclin. Nous allons y venir dans un instant. Du Guesclin, finit-il, retourna contre les Anglais leur tactique. Ils étaient devenus avec le prince noir des chevaliers chevauchant en groupe. Le connétable leur fit une guerre d'embuscade et de replis successifs, une guerre de piétons. Il sut les obliger à livrer bataille sur le terrain qu'il avait lui-même choisi. Et en 1370, après plusieurs campagnes épuisantes, les Anglais exténués furent battus par Du Guesclin à Pont-Vallin. Alors, j'ai extrait d'un ouvrage assez étonnant des années 1960, un ouvrage où 40 académiciens rendaient hommage aux 40 plus grandes gloires de la France, ce texte qui vient sous la plume de Jérôme Carcopino, vous savez, le grand spécialiste de l'Antiquité. « Si remontant le cours du temps, nous cherchons dans les plus lointains souvenirs de l'histoire de France le héros qui l'a profondément marqué des traits de sa propre personnalité, écrivait Carcopino, ce n'est point à la figure du Celte vers Saint Gétorix, trop tôt interrompu par la victoire de César dans sa tentative désespérée d'une union encore impossible des tribus gauloises qui doit nous arrêter, mais bien celle d'un autre Celte, le Breton Bertrand du Guesclin, car le destin singulier de ce grand homme aura été d'abord de bouleverser les règles de la guerre courtoise où il était capable d'exceller par la stratégie nouvelle dont il aura été au XIVe siècle l'initiateur et le metteur en œuvre. Alors quelle a-t-elle été exactement? justement cette stratégie? Qui était vraiment ce monsieur du Guesclin? Était-il aussi laid, aussi rusé, aussi désintéressé que nous l'a décrit la chronique? D'où venait-il exactement? Que lui doit la France sur un plan concret? Ce sont là quelques-unes des questions que je me propose de poser en votre nom à nos invités.
Hôte de Noël, Europe 1.
Et jusqu'au 25 décembre sur Europe 1, la Hôte de Noël est de retour avec des centaines de cadeaux à gagner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette Hôte de Noël, Julien?
Eh bien, nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour pour deux personnes au soleil avec Eliade en Crète, une semaine dans un club 3 étoiles en formule tout compris, vol inclus, valeur du séjour tout de même 2000 euros pour vous. Inscrivez vos tirages au sort, vous envoyez le mot de passe histoire, histoire au singulier par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Nous vous souhaitons bonne chance à tous.
En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hôte de Noël Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et pour évoquer Bertrand du Guesclin, nous vous retrouvons Franck sur Europe 1 avec votre premier invité, Valérie Toureille, qui est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise.
Bonjour Valérie Toureille, merci d'être venue nous parler de ce personnage du Guesclin. Alors, je sais que parmi nos auditeurs, on peut faire deux groupes, ceux qui ont, on va dire, plus de 30 ans. Alors c'est un grand groupe, hein, évidemment, qui connaissent, je pense, du Guesclin parce qu'on en a beaucoup parlé à l'école. Et puis tous les plus jeunes qui, non seulement le connaissent mal, mais disons-le franchement, parce que j'ai fait mon petit sondage, ne le connaissent pas du tout, ce qui est incroyable. Ouais. Hein, on peut dire qu'il a disparu du paysage scolaire. C'est assez étonnant. Alors, on va essayer de le situer un peu. D'où vient-il, ce du Guesclin? Il est breton, ça c'est la base de tout, n'est-ce pas?
Oui. Alors, il est né vers 1320 d'un petit lignage, d'une famille plutôt modeste. Son père est héritier d'une branche cadette, celle des du Guesclin. Il est le modeste seigneur de la Botte Bron. Son domaine se situe entre Rennes et Dinan. Et Bertrand est l'aîné d'une grande famille, hein, en tout cas numériquement, puisqu'il est l'aîné de 10 enfants.
Mais, oui.
Mais il est, dit-on, noir et grossier. Et ses parents...
C'est un peu le mouton noir.
Oui, voilà. Hein, ses parents ne lui portent pas, semble-t-il, une grande affection.
Le vilain petit canard.
Et il revendique d'ailleurs lui-même, hein, il la revendiquera plus tard, je dirais, cette origine modeste. Hein, il se dit « Je suis un chevalier pauvre et de petit nom ». Alors, il a eu une enfance, on pourrait dire, sauvage, où il n'a pris à peu près rien, n'ayant plaisir qu'à se battre et à boire avec les garçons du village. Ce défaut d'instruction, il le revendique aussi. C'est peut-être déjà un handicap au XIVe siècle, hein, pour s'élever dans la hiérarchie militaire, mais on verra que du Guesclin a su s'en émanciper. Cet homme laid, violent, inculte, en tout cas, n'entendait pas à perpétuer un vieil idéal de chevalerie. Alors à 16 ans, il se sauve déjà chez son oncle. On sait que le jeune homme assiste souvent à des tournois, mais il n'y prend pas part parce qu'il se sait trop pauvrement vêtu. Alors un jour, n'y tenant plus, on est en 1337, hein, il saute sur un cheval de labour et se rend à des grandes joutes qui se tiennent à Rennes.
Alors ça, il faut imaginer le grand tournoi tel qu'il existe encore à cette époque, bien entendu, et l'on va voir s'affronter deux par deux, bien entendu, des chevaliers qui, pour la plupart, sont très expérimentés. Alors c'est une joute de chevalerie, on joute avec de grandes lances, hein, on brise des lances, comme on disait, et il ne fait pas partie des personnes inscrites, notre jeune du Guesclin. Là.
Non, il emprunte en fait même son armure, dit-on, à un cousin. C'est la tradition, en tout cas, qui nous le raconte. Et il va soutenir comme ça 15 courses sans trouver d'adversaire.
Donc 15 assauts de chevalerie.
Voilà, sans trouver d'adversaire à sa taille. Et je dirais presque un peu comme dans un film.
Hein. Il ne porte pas d'armes. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'est pas identifié. Le public est là. Il combat visière fermée. Et donc, on ne sait pas qui est ce chevalier si brillant et qui arrive à désarçonner tous ses adversaires l'un après l'autre.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'évoque un peu la scène de cinéma.
Oui. Hein,
il descend de cheval, relève sa visière. Et là, son père, dans l'assistance, le reconnaît. Il le reconnaît désormais.
On dit qu'il a refusé de lutter contre son père, c'est ça? Enfin, c'est la légende, hein, c'est ce que raconte la tradition. C'est-à-dire que son père, au bout des 15 chevaliers, se présente son père, et là, d'un seul coup, il refuse de combattre. Alors, on se demande pourquoi. Et finalement, il lève sa visière. Et alors, pour ce père qui, quand même, n'a pas été tendre avec lui, ça a dû être une sorte de révélation, tardive, certes, non?
C'est vrai, c'est vrai.
Et sa mère n'était pas tendre non plus. Hein. Elle lui disait, là encore, attention, c'est la chronique, mais sa mère lui aurait dit, je préférerais vous savoir mort ou mieux, point né, que de vous voir devant moi. Donc c'était, il y avait quand même, d'où vient cette agressivité des parents et de la famille contre ce pauvre,
pauvre Duguay Sans doute de sa laideur, hein, qui est presque devenue, proverbiale,
oui.
Sans doute aussi que le petit garçon était très remuant et qu'il dérangeait sans doute ses parents. Il refusait aussi de suivre les leçons de ses précepteurs. Enfin, tout cela en a fait un enfant un peu désobéissant.
Et en même temps, ça va justifier qu'il ne soit pas comme les autres, cet enfant-là, et que très vite, il va manifester une grande différence par rapport à tous ces chevaliers coulés dans le moule courtois, en quelque sorte. Il est un peu différent, et c'est cette différence qui va lui permettre d'être si efficace sur un plan militaire.
Tout à fait, tout à fait. En fait, on connaît mal les premiers faits d'armes, hein, de l'homme sur le terrain et sur le plan local. Au moment de la guerre de succession de Bretagne, j'entre pas dans les détails, il commence déjà les premières escarmouches contre les Anglais, usant finalement des mêmes méthodes, hein, c'est-à-dire qu'il rend brigandage par un autre brigandage, et il commence déjà à avoir une renommée qui se façonne là, tout doucement.
Et cette renommée, elle va bientôt littéralement déferler sur l'ensemble d'un royaume qui est à reconquérir. Nous venons un peu aussi sur le contexte, sur l'époque, dans un instant, à votre compagnie.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Muse of Fire, extrait de la bande originale du film de Kenneth Branagh, Henri V. Nous parlons aujourd'hui d'un grand héros du Moyen-Âge, Bertrand Duguay-Clin, qui fait réagir nos auditeurs.
Eh oui, alors les auditeurs essaient de m'expliquer que je me suis trompé. On sait encore qui est Duguay-Clin. Blandine nous dit, figurez-vous que mon fils de 7 ans et demi est un grand fan de Bertrand Duguay-Clin. Il faut dire que c'est son papa qui lui en a parlé et depuis, il pose beaucoup de questions. Alors, le pauvre, aujourd'hui, il est à l'école, bien entendu, mais il faut que vous podcastiez Blandine et que vous lui rediffusiez l'émission. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. J'ai appelé ma fille Tiphaine en hommage à Bertrand Duguay-Clin, nous dit par ailleurs Sophie. Enfin, vous voyez que finalement, la mémoire de Duguay-Clin est encore vive. Et pourtant, cet homme-là a vécu un moment qui est très oublié. On est dans cette période au cœur même de la guerre de Cent Ans, Valérie Toureille. C'est l'époque où le roi Jean de Le Bon a été vaincu en 1356 près de Poitiers. Il a été emmené en captivité en Angleterre. C'est son fils Charles qui assure la régence et qui, à la mort de son père, va devenir le roi Charles V, dit le sage. Mais si il a gagné dans l'histoire, ce surnom du sage, c'est en partie grâce à Bertrand Duguay-Clin. Car en vérité, ceux qui vont reconquérir le royaume, c'est un duo. Hein, c'est le roi et son homme d'armes, son bras armé, Bertrand Duguay-Clin.
Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Charles V est plutôt un homme, rusé, c'est un grand politique, c'est un homme aussi intellectuel, en tout cas, qui s'entoure de grands clercs. Et il avait effectivement besoin d'un grand militaire à ses côtés, et il l'a trouvé. Il l'a trouvé, assez tôt, puisqu'en fait, c'est au moment du siège de Rennes que Bertrand Duguay-Clin se distingue. Et que Charles de Blois, l'un des compétiteurs pour le duché de Bretagne, le reconnaît et le distingue puisqu'il va l'adouber comme chevalier. Bertrand a 37 ans, c'est assez tard pour recevoir donc ce nouveau grade. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard.
Oui, je vais raconter dans un instant dans quelles conditions il l'a reçu et surtout avec quelle modestie proclamée il a reçu ce très grand titre.
Alors, il va lui confier déjà la garde de deux places, Pont-Orson et le Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai que très vite, il va se charger de guerroyer contre les troupes anglo-navarraises.
Alors cette guerre fait partie de tout un ensemble de reconquêtes, c'est ce qu'il faut bien expliquer en fait. Il s'agit d'une part de reconstituer le royaume et d'autre part de créer une nouvelle suggestion, au roi de France une nouvelle fidélité qui est un sentiment tout à fait, enfin pas tout à fait, mais relativement nouveau en tout cas.
C'est vrai, c'est une période difficile. Donc le roi est en captivité, c'est son fils, le dauphin, qui doit assumer toutes ces responsabilités-là. Et la période a été assez mouvementée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à Paris, c'est la révolte d'Étienne Marcel. C'est aussi le moment...
C'est une sorte de révolution avant, avant l'heure.
Oui, hein, c'est aussi la jacquerie. Et puis,
il y a ces grandes compagnies partout. Voilà. Il faut régner la terreur, il faut en dire un mot. Hein. Ce sont de véritables brigands, ce sont des bandes armées qui partout sèment la désolation.
Tout à fait. En fait, dès les lendemains de Poitiers, et d'ailleurs dans un grand discrédit à l'égard de la noblesse, hein, que l'on accuse de ne pas tenir son rang, puisqu'elle accumule les défaites, ces hommes se trouvent démobilisés après Poitiers. Et le traité de Bretigny, qui est une pause hein, dans cette guerre de 100 ans, va, je dirais, accroître encore ce problème du licenciement des hommes de guerre qui continuent à vivre sur la campagne comme si la guerre continuait toujours.
Alors, Philippe Duguesclin, non pas Bertrand, mais Philippe est avec nous. Dans un instant, évidemment, nous allons voir avec lui ce qu'il reste du souvenir du grand ancêtre dans cette famille Duguesclin.
La Hotte de Noël Europe 1.
Et je vous rappelle qu'il vous reste encore, on va dire quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël.
Exactement, et pour tenter de gagner un séjour pour deux personnes au soleil avec Eliade en Crète, une semaine dans un club 3 étoiles en formule tout compris, vol inclus, 2000 euros, c'est la valeur du séjour. Pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe, c'est histoire au singulier par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et nous annoncerons avec Franck le nom du gagnant en fin d'émission.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et Franck, je remarque que vous avez un bel album entre les mains.
Ah oui, c'est le jour ou jamais de parler de ce grand album d'histoire de France de notre enfance, de Dimitri Casali et Guillaume Bourjade, qui est publié chez Grund. Nos deux compères se sont amusés à aller chercher dans un certain nombre de manuels de la fin du 19e et du début du 20e ces magnifiques illustrations en couleur dont le but était d'impressionner les jeunes élèves, bien entendu. Et alors, quand on ouvre l'album en question au chapitre Duguesclin, d'abord on se rend compte que c'est un grand et long chapitre, hein, quand je vous dis qu'à l'époque c'était très important. Duguesclin était considéré un peu comme le père de l'unité nationale, c'était vraiment, en tout cas c'est ce qu'on voulait, c'est le rôle qu'on voulait lui voir jouer, et l'on voit se succéder tous les épisodes. Alors on voit en 1357, lors de son duel contre l'anglais Thomas de Canterbury, Duguesclin révèle sa maîtrise absolue des armes, puisqu'on le voit passer littéralement, alors qu'il est lui-même en armure, sous la ventrache du cheval et donner ce coup de dague qui va lui offrir une victoire tout à fait inespérée. Alors on voit le jeune Duguesclin très espiègle dans sa jeunesse. Alors c'est amusant parce qu'on l'a habillé avec des costumes qui sont clairement fin 15e alors qu'on est quand même au milieu du 14e. Mais enfin bon, ça fait partie du pittoresque et du folklore, si je puis dire, de cette histoire de France telle qu'on l'enseignait à l'époque. On voit bien sûr ce fameux tournoi de ce chevalier inconnu à la visière baissée et qui va ne se révéler que devant son père. On parle du dogue noir de Brosseliande. C'est le nom qu'il porte, enfin c'est le surnom qu'on lui donne à l'époque où il se bat un peu seul dans le cœur de la Bretagne. C'est la période un peu confuse de sa biographie du reste. Le courage donne ce que la beauté refuse. Voilà la devise que l'on apprenait aux enfants. On le voit se battre notamment lors du siège de Melun. On dit qu'au siège de Melun, les Anglais jetaient des pierres littéralement sur les assaillants et que non seulement l'échelle sur laquelle se trouvait Duguesclin, il est sous les ordres même du roi ce jour-là, a été brisé, mais que lui-même aurait reçu des pierres sur la tête. On voit Duguesclin preneur de ville, la victoire de Cocherel bien entendu. Et puis, et ça c'est l'une des plus anciennes vignettes de l'ouvrage et c'est très joliment illustré, on est dans une esthétique néo-gothique comme ça, une vignette qui pourrait faire penser à la lettrine enluminée d'un manuscrit. On voit Duguesclin éloignant les grandes compagnies, vous voyez que ça a été très important, ça fait partie des choses essentielles, ça fait partie de ce que l'on retient du personnage. Et puis cette rançon, il est quand même le seul chevalier du Moyen-Âge qui exige qu'on augmente. Il est devant le prince noir et le prince noir lui dit « Mais à combien estimez-vous votre rançon ?»« 100 000 écus d'or » dit-il. Il demande qu'on monte le tarif de sa rançon parce que après tout, c'est signe qu'il est lui-même un personnage très important. La dernière vignette est pour la mort du connétable. Cette mort du connétable, j'y reviens moi-même dans un instant.
Once More into the Bridge, nouvel extrait de la BO du film Henri V.
On est donc sur le lit de mort de Bertrand du Guesclin en 1380. Priez tous pour moi, car mon temps est fini. Aimez-vous les uns et les autres, soyez bonnes gens et servez loyalement le roi couronné. Telle est la dernière injonction de Bertrand du Guesclin à tous ceux qui sont agenouillés autour de son lit. Nous avons tous vu des diapositives, des représentations, etc. quand on était petite, cette scène célèbre entre toutes dans l'histoire de France. Il avait la foi chevillée au corps, Bertrand du Guesclin, et d'ailleurs on se rend compte qu'un certain nombre de reprises pendant toute sa carrière militaire, il ne cesse de rendre grâce, comme le faisaient d'une façon générale les chevaliers de l'époque, mais peut-être avec plus de piété, plus de sincérité que certains. Le soir où il a été armé chevalier, il est allé se faire bénir dans la chapelle de Montmuran. À Rennes, avant de passer à l'attaque, il se rend à l'église et exige qu'on chante une messe. Enfin, on a comme ça tout au long de sa chronique des allusions, évidemment, à sa grande piété. Et cette piété, il la vivait au quotidien. Il manifestait, dit-on, une grande bonté. Et d'une façon générale, il essayait d'éviter que les populations ne souffrent trop. Tout est très relatif, hein. On reste au XIVe siècle, que les populations ne souffrent trop du passage de ces armées. De toutes les armées qui se battaient alors sur le sol de France, écrivait Jérôme Carcopino, celle du roi aux ordres de Du Guesclin était la seule qui fut digne d'être aimée parce qu'elle l'emportait par sa discipline, par son respect des personnes et des biens sur toutes les autres, sur les bataillons d'Édouard III, sur les bandes de Charles le Mauvais, surtout sur l'ignoble ramassis de ses grandes compagnies ivres de débauches et d'atrocités dont Du Guesclin, obéissant à Charles V, dériva le brigandage jusqu'en Espagne. Et oui, car c'est une des grandes réussites de Du Guesclin, c'est d'avoir réussi à dériver de l'autre côté des Pyrénées toutes les mauvaises actions de ces grandes compagnies. La popularité de Du Guesclin était celle qui s'attache généralement aux libérateurs, vous savez, car on ne compte pas le nombre de cités qu'il aura libérées. On lui a très souvent remis les clés des cités reconquises sur le carreau, comme on disait, c'est-à-dire sur un coussin brodé. On apportait symboliquement les clés de la ville. Le nouveau connétable a rempli sa fonction dans un esprit que certains historiens, et c'est Lavis qui le premier, bien sûr, va vouloir défendre cette idée, quelque chose qui contenait peut-être déjà en germe un peu du principe de la démocratie. Je cite à nouveau Carcopino. Au fait de ses honneurs, Du Guesclin s'est souvenu de sa jeunesse lorsqu'elle dirigeait joyeusement les ébats des petits manants de la mode Bron, et par la suite il a travaillé du mieux possible au rapprochement de la noblesse et de la paysannerie qui se tenaient au coude à coude dans ses formations guerrières. En toute occasion, il reportait sur la vaillance de ses hommes l'honneur des succès remportés sous ses ordres, et du reste, l'on sait avec quelle habile modestie il a accueilli son élévation au poste suprême. Et oui, car on sait qu'au moment, on est le 2 octobre 1370, au moment où Charles V lui remet l'épée de connétable et en fait le premier soldat du royaume, voilà ce que répond Du Guesclin. « Cher sire et noble roi, il est bien vérité que je suis un pauvre homme et de basse venue. Et voici mes seigneurs, vos frères, vos neveux et cousins qui auront charge de gendarmes en os, donc en armée, et chevauchés. Comment puis-je aussitôt commander sur eux ? » Et voilà ce que lui répond Charles le Sage. « Bertrand, ne vous excusez pas, car je n'ai ni frère, ni neveu, ni comte ou baron en mon royaume qui n'obéisse à vous. Et si nul était au contraire, il me courroucerait tellement qu'il s'en apercevrait. » Il y a, je vous l'ai dit, une véritable confiance entre ces deux hommes, et le règne de Charles V eût été bien différent sans le bras armé de Bertrand du Guesclin. « J'avais l'intention, dira-t-il à la toute fin de sa vie, de mettre fin aux guerres de France et de remettre tout le royaume en l'obéissance du roi. Je requiers Dieu qu'il vous donne toujours loyal courage envers le roi qui mettra fin à ces guerres. » Vous voyez, le roi, encore le roi, toujours le roi. Et dans l'esprit des historiens qui vont faire de Du Guesclin ce modèle entre tous, qui dit roi, dit nation et dit patrie, bien entendu.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, c'est une avalanche de réactions qui nous parviennent sur Europe 1.fr pour parler de Bertrand
Duguesclin.
Voyez
comme il est populaire ce Bertrand Duguesclin, l'inventeur de la guérilla, nous dit Patrick et nous disent quelques autres. Alors Déborah confirme quand même ce que je disais tout à l'heure, puisqu'elle dit « J'ai 24 ans, je suis archiviste et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler du chevalier à l'honneur aujourd'hui ». Vous voyez quand même qu'aujourd'hui, on a vraiment décidé de ne plus en parler de ce Duguesclin. Il repose, précise Yann, parmi les rois de France à Saint-Denis. Mais oui, et comment, puisque le roi Charles, qui mourra d'ailleurs quelques semaines seulement après Duguesclin, va lui faire cet honneur incroyable de l'inhumer comme un certain nombre, mais très rares, maréchaux et grands généraux dans la nécropole des rois de France. Turenne, par exemple, était également inhumé à Saint-Denis avant de regagner les Invalides. Et les grandes compagnies, demande Patrick. Oui, nous y venons aux grandes compagnies, bien entendu. Je vous ai dit qu'il avait joué un rôle important. On a l'impression d'entendre, nous dit Patrick, les exploits d'un personnage de BD, tellement il est rusé, plein d'agilité, il a l'air d'être partout à se battre, un Zorro avant l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de com ? Je vous l'ai dit, il y a forcément une part de légende, elle fait partie intégrante de ce personnage. Et du reste, c'est un personnage qui est plus controversé qu'il n'y paraîtrait. Jacques, par exemple, qui est visiblement breton, nous dit « Duguesclin, le traître, est bien connu en Bretagne. Il a eu sa statue à Bron, sa ville natale, mais on lui coupait la tête si souvent qu'on a fini par ne plus l'installer. » Donc, c'est un personnage plus controversé aussi qu'il n'y paraît. Bonjour Philippe Duguesclin de Saint-Gilles. Merci d'être avec nous. Alors, vous Bonjour. Portez ce grand nom. J'imagine que quand vous étiez petit à l'école, on devait beaucoup vous poser de questions. Évidemment.
Alors, oui, bien entendu. Déjà, quand j'étais petit à l'école, bien sûr, ça faisait l'objet éventuellement de railleries, de contresens du type sans peur et sans reproche.
Ah oui, ça c'était un autre. Ça,
oui, c'était un autre. De contresens divers et variés. Mais bien entendu, les gens de ma génération ont énormément entendu parler du Duguesclin pendant leur cours d'histoire. Et donc c'était quelque chose de... qui était à la fois gratifiant et difficile. C'est un nom qui est à la fois gratifiant et difficile à porter.
Et c'est vrai que ces chevaliers, que ce soit ceux des toutes premières croisades ou que ce soit les tout derniers chevaliers, puisqu'on parlait de Bayard à l'instant, je pense aussi à Godefroy de Bouillon, etc., on les citait toujours en exemple, ils faisaient partie des figures repères du roman national, en quelque sorte. Ça faisait, on pourrait dire qu'à la limite, ils étaient les héros qu'on voulait inculquer aux jeunes Français pendant des générations et des générations, Valérie Toureille.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est important de souligner aussi, c'est que Duguesclin a bénéficié d'une véritable entreprise de glorification, je dirais, dès le lendemain de sa mort. Hein. Mm-hmm. Il y a un clerc donc, qui s'appelle Cuvelier, hein, qui va rédiger une chanson de geste en l'honneur de Duguesclin. Et puis, c'est le moment aussi où on le classe parmi les 4 grands preux, hein, ou les 10 grands preux, hein, après, effectivement, cette œuvre de glorification. On le retrouve dans des tapisseries, on le retrouve dans des sculptures, et vous l'avez dit, dans la nécropole royale de Saint-Denis. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même très important, en tout cas au Moyen-Âge, c'est que comme les princes, la dépouille de Duguesclin va être divisée. Hein. On va enterrer ses viscères au Puy-en-Velay, ses chairs à Montferrand, son cœur à Dinan, et donc son squelette à Saint-Denis. Donc il est traité comme un homme de très haut rang, lui, qui l'a si souvent rappelé, venait donc de ce petit lignage.
Mmh, il va être momifié comme un roi, en fait, hein, il faut dire. Hein. Il bénéficie de tous les privilèges funèbres qui sont habituellement ceux d'une personne royale, en fait.
Tout à fait. En 1389, hein, la famille royale va lui rendre un hommage funèbre à Saint-Denis.
Une grande pompe, comme on disait. Alors, quel a été le rôle précis de Duguesclin dans l'évolution de la stratégie et de la tactique ? En quoi ce grand soldat mérite-t-il qu'on en parle encore tant de siècles après ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Moi, Bertrand Duguesclin, le vilain, suis né un jour de 1320. Dans une grande ferme avec une tour, s'il est qu'on me priva d'amour. Moi, Bertrand Duguesclin, le vaurien, fils fils d'un petit chevalier sans bien, connu une rue de jeunesse, sans instruction et sans mère.
Extrait de Bertrand Duguesclin, Le courage donne ce que la beauté refuse. C'est un spectacle musical autour de la vie de Duguesclin, Franck.
Écoutez, je ne suis pas sûr que la voix soit celle que j'imaginais pour Duguesclin. Je trouve la vôtre plus crédible, Philippe Duguesclin, évidemment. Est-ce que dans votre famille, on entretient le feu sacré?
Alors, il faut savoir que mon père est mort quand j'avais 2 ans. Et étant donné que la famille, côté paternel, n'était pas du tout favorable au mariage de mon père et de ma mère, il y a eu une véritable scission, ce qui fait que je ne connais absolument personne de ma famille paternelle, d'origine paternelle. Donc je ne peux pas dire si la famille de mon père entretenait ou a entretenu ou entretient toujours la légende du personnage.
Il y a toujours dans la famille des vestiges en revanche, hein, vous avez un
certain
nombre de...
Il y a plusieurs choses. J'ai hérité de par la famille d'une maison qui se trouve au Mont Saint-Michel sur le mont même, qui s'appelle le logis Tiphaine.
Alors il faut dire un mot de Tiphaine, parce que tout à l'heure cette auditrice nous a dit que justement elle avait appelé sa petite fille Tiphaine en souvenir de Duguesclin, et j'ai pas eu pris le temps d'expliquer pourquoi quand même, en
alors Tiphaine de Raguenel était une véritable antinomie par rapport à Bertrand Duguesclin, lui qui était...
Sa femme, vous dire.
Sa femme, oui, bien sûr, voilà. Sa femme, excusez-moi. Était une véritable antinomie, c'est-à-dire que c'était une femme extrêmement cultivée, très belle, enfin qu'on dit avoir été très belle, qui était astrologue, qui était versée un petit peu dans toutes les sciences qui étaient considérées comme des sciences à l'époque. Et donc un personnage extrêmement délicat face au dogue noir de Brocéliande qui lui manquait un petit peu de grâce. Et donc il a installé, pour la mettre en sécurité, sa femme Tiphaine de Raguenel au logis Tiphaine du Mont Saint-Michel. Et il est reparti guerroyer, ce qui fait que sa femme a dû quand même avoir assez peu de temps pour le fréquenter réellement et pour bien le connaître. Donc ce logis Tiphaine est toujours installé au Mont-Saint-Michel. C'est un musée actuellement.
Ça se visite donc.
Ça se visite absolument, oui, tout à fait. Et j'ai la chance d'en être encore le propriétaire.
Mais bravo. Voilà. Je vous signale que ce week-end, nous dit Christian, le village de Vasse dans la Sarthe inaugure une plaque commémorative à propos de la libération du village par Duguesclin après la bataille de Pont-Vallin. Donc vous voyez que tout c'est une mémoire qui reste très active et très vive encore dans toutes ces provinces libérées par Duguesclin en quelque sorte. Alors comment s'y prenait-il? Il faut qu'on arrive quand même, il faut qu'on raconte un peu ce qu'il avait de si génial sur un plan militaire, ce Duguesclin. Comment faisait-il pour libérer toutes ces ville, Valérie Toureille?
Alors déjà, l'homme a un véritable charisme, hein, celui qui forge les vrais chefs de guerre. Et c'est un leader, c'est un entraîneur d'hommes. Il est capable de mobiliser effectivement les hommes de ses grandes compagnies. Alors, je voudrais en parler, je ne sais pas si on aura le temps. Ces grandes compagnies, elles ont effectivement une image très négative et on ne pourrait pas la réhabiliter ici. Cependant, Duguesclin a utilisé les grandes compagnies. Hein, en 1368, il a ramassé justement un certain nombre de ses soudards pour les emmener en Espagne. Donc il est capable de mobiliser autour de lui cette adhésion. On voit même des hommes se présenter spontanément au connétable pour combattre à ses côtés.
Oui, il a cette capacité, c'est un meneur d'hommes hors pair. J'ai dit qu'il avait cette bonté, bonté tout autre relatif, hein, mais en tout cas on disait qu'il avait un sens de la justice. Aucun excès, jamais, à une époque où tous les combats donnent souvent lieu à des excès. Oui, vous êtes plus dubitatif sur cet aspect.
Oui, on lui reproche d'avoir été parfois un peu trop conciliant avec les grandes compagnies. Vous savez, dans le combat, il y a une fraternité d'armes qui fait que l'on ne condamne pas toujours les excès de ces hommes, on va dire dans les à côté de la guerre, et les pillages de ces Bretons en particulier. Il n'empêche que Duguesclin était effectivement assez proche de ces hommes. Il n'a pas le mépris du chevalier pour les
plus. On a l'impression d'une nouvelle génération quand même. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les chevaliers style Crécy qui se laissent abattre sur place dans leur armure. Il y a plus de mobilité dans des groupes plus réduits. Et puis, ces espèces d'attaques sporadiques qui peuvent faire penser à ce qu'on appelle aujourd'hui la guérilla, donc,
oui,
hein, c'est bien
fait,
ça.
Tout à fait. Et je dirais qu'il s'adapte parfaitement à la tactique des Anglais, hein, qui ont déjà, je dirais, donné une valeur plus importante aux piétons. Et on voit à plusieurs reprises hein, du Guesclin combattre à pied. Donc, Cocherel est une grande mêlée. Il y en aura d'autres. Pontvalin aussi. Donc effectivement, il prend les places, parfois par des moyens peu chevaleresques, mais la guerre a changé de visage et elle se fait comme ça. Du Guesclin l'a compris et c'est pour ça aussi que ses victoires résonnent encore, avec une petite réserve. Il a connu aussi des échecs.
Alors c'est un Breton, on l'a bien compris, entouré de Bretons. Il y a une sorte de lobby breton à partir du Guesclin qui va s'installer à la cour de France. Les Bretons vont devenir le bras armé de la monarchie.
C'est vrai qu'on va retrouver Clisson.
Clisson, hein, bien sûr.
C'est vrai qu'on combat par patrie. Alors il y a un autre grand foyer de recrutement hein, de ces grands chefs de guerre. Ce sont tous les routiers gascons hein, que du Guesclin va côtoyer, qui vont parfois le servir et qu'il va parfois combattre aussi. Hein. Et effectivement, en Bretagne, on recrute beaucoup d'hommes de guerre. Et c'est vrai qu'on voit très souvent donc, les Bretons combattre ensemble.
Les Anglais n'avaient pas une très haute estime pour du Guesclin parce qu'il était trop bon, c'est ça? Ils avaient de mauvais souvenirs, le souvenir de Pontvalin notamment?
Je ne crois pas. Je pense que tous ces hommes de guerre, de quelque camp qu'ils puissent être, s'estimaient justement pour la valeur en combat. Sans entrer dans les détails, hein, certains changent de camp. Hein. Bon. Oui. Alors, à la réserve près quand même que du Guesclin fut toujours loyal, hein, a toujours été fidèle au roi. Et justement, au moment de la réunion, enfin, lorsque Charles V propose la réunion de la Bretagne à la couronne, eh bien, du Guesclin hésite, mais ne s'oppose pas au roi. Hein. C'est ce loyalisme chevillé au corps qui le tient encore et qui lui vaut peut-être encore aujourd'hui cette réserve d'un certain nombre de Bretons.
Merci beaucoup Valérie Toureille. Je signale que vous allez bientôt publier, et ce sera là en janvier, Crimes et Châtiments. C'est un ouvrage sur la criminalité à la fin du Moyen-Âge, c'est bien
oui,
ça?
Tout à fait.
Donc vous viendrez nous en reparler de ce livre. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Dimitri Casali et Guillaume Bourjade que j'ai feuilleté au micro tout à l'heure, le grand album d'histoire de France de notre enfance. C'est aux éditions Grunt. On vous retrouve ce soir, vous Philippe du Guesclin, puisque...
Bien sûr.
Vous serez présent pour la remise, pas la remise, mais pour la proclamation du prix à l'occasion du 3e salon de l'histoire, donc du prix du Guesclin, un prix qui a un jury très prestigieux. Alors quand je dis ça, ça fait pas très modeste parce que j'en fais partie de ce jury. Enfin, il y a des gens comme évidemment ma chère amie Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean Tullard est là, Emmanuel de Varesquiel, Sophie Herfort, etc. Michel de Decker que nous saluons très chaleureusement bien sûr. Donc ce sera ce soir, c'est au Cercle National des Armées, donc c'est devant Saint-Augustin et c'est à partir de 19h30, voilà me dit-on. Merci beaucoup d'avoir suivi cet hommage à du Guesclin qui devrait donner envie à tous nos enseignants de revenir un peu de temps en temps, un peu à la chronique.